Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, bonjour, je reçois aujourd'hui Suzelle Brou, architecte. Bonjour Suzelle.
Bonjour Myriam.
Alors Suzelle n'est pas seulement architecte, évidemment, elle est architecte, elle est enseignante. Elle a accompagné la mission MIQCP pendant un certain nombre d'années et on va évidemment en parler. Elle est architecte conseil de l'État depuis aussi un certain nombre d'années. Une belle expérience et l'Académie d'architecture, enfin je vais faire un petit raccourci. Cette jolie expérience qui vous porte aujourd'hui dans le paysage de ce cher paysage des architectes, vous fait travailler sur différents projets. Est-ce que c'est une expérience que vous regardez aujourd'hui avec effectivement une certaine évolution du paysage, du métier? Qu'en pensez-vous?
Alors oui, les commandes ont changé, les maîtres d'ouvrage ont changé, et donc les programmes aussi. On travaille beaucoup plus maintenant sur la moitié des projets de l'agence font en restructuration, on démolit moins, c'est une bonne chose.
Et alors est-ce que c'est un savoir-faire particulier, la réhabilitation?
Tout nouveau projet, quand on est architecte.
Chaque fois, c'est une nouvelle histoire.
C'est une nouvelle histoire. Alors, par contre, il y a des expériences qui, effectivement, sont plus... s'accumulent. Et la première restructuration que j'ai faite d'un bâtiment 70, qui était très difficile à restructurer, parce que très rigide, m'a fait travailler les bâtiments actuels neufs d'une autre façon, en structure capable, en structure flexible, modulable, en tout cas, tout un travail sur la structure et les volumes capables.
Alors, vous parlez évidemment de ce travail de rénovation qui vous amène à faire une meilleure architecture neuve. Est-ce qu'il s'agit de logements, d'espaces, d'équipements publics? Est-ce que le logement aujourd'hui, il est différent de celui que vous avez pu construire il y a une vingtaine d'années?
Alors en tout cas, je vais dire un peu brutalement, le logement a quitté le domaine de l'architecture principalement. On a, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une sorte d'inflation, hyperinflation administrative, où on a écarté finalement les qualités d'usage élémentaires, supprimé quelques mètres carrés et évacué la mixité. Et il n'est plus en lien avec les besoins actuels et surtout avec la rationalité constructive, mais aussi même avec l'urbanité.
Vous ne trouvez pas qu'il a quand même changé, là, en 2-3 ans? On est de nouveau quand même dans une mixité d'usage, dans une évolution, dans une flexibilité du plan. Quelque part, la RE 2020 nous oblige à refaire ce travail.
Alors, je ne sais pas si c'est la RE 2020
non,
qui a sûrement une influence.
Ou la conscience, mais, la bonne conscience.
Mais peut-être que le confinement a révélé aussi des insuffisances. Il y a eu aussi le rapport sur le logement, Girometti. Et c'est vrai, je trouve, qu'il y a certains maîtres d'ouvrage, certains architectes qui reprennent
cette réflexion.
Qui se reposent des questions. Et actuellement, on travaille d'ailleurs sur une résidence, c'est en concours, donc voilà, une résidence égalitaire, où l'habitante, et au centre des réflexions de.
Alors, quand vous dites que les habitants sont au centre, est-ce que ça veut dire qu'ils sont partie prenante dans le jury du concours? Est-ce qu'ils vont vraiment intervenir? Est-ce qu'on pense à eux tellement en amont qu'ils sont dans le programme? Comment ça se passe, hein?
Alors, ça se passe pas exactement comme ça. Pour l'instant, c'est plutôt un concours d'idées. Voilà, c'est un concours d'idées. Et sur un travail qui était fait sur le logement égalitaire, et en particulier la place de la femme dans la ville et dans le logement. Et effectivement, bon, il y a eu des études, plusieurs études là-dessus. Ça se passe dans un plan d'urbanisme qui a été fait de manière assez délicate par Pressaco, Barreau Pressaco et les paysagistes inuits, où tout le sol, le travail du sol, de la qualité du sol, de comment le bâtiment se pose sur le sol et donc des seuils, des entrées, s'est posé. Alors après, il va y avoir effectivement concertation, mais c'est du logement social, c'est-à-dire que il y aura des attributions de logements. Mais oui, il va y avoir...
D'accord, donc pourquoi comment se fait ce rapport du coup entre l'attribution, le logement, la qualité du logement, à quel moment intervient l'habitant dans son mode d'habiter ?
Alors d'abord, il a été écouté pour savoir quel programme, qu'est-ce qui convenait, en particulier qu'est-ce qui convenait aux femmes seules avec enfants qui travaillent.
Ça veut dire qu'il y a une garderie, qu'il y a des services.
Qu'il y a une garderie, il y a quelques services, mais même à l'intérieur du logement, je ne vais pas tout révéler, c'est un concours encore.
Bien sûr,
mais même à l'intérieur du logement, c'est comment refaire des pièces, comment pouvoir refermer des pièces, pouvoir avoir des cloisons mobiles pour avoir un coin à soi, comment la cuisine revient au centre. Et pas en fond de séjour de 18 mètres carrés.
Ah oui, bah évidemment.
Comment les circulations sont sécurisées, comment les parkings sont sécurisés.
Vous nous donnez envie, j'espère que, évidemment, vous allez remporter ce concours et qu'on va pouvoir en parler une autre fois. Vous travaillez énormément sur des équipements, hôtels de police et autres. Et l'équipement aujourd'hui, quelle est sa place dans la ville ?
Alors bon, c'est effectivement un concours qu'on fait actuellement pour un hôtel de police à Vierzon, mais on travaille aussi beaucoup sur les universités, sur même les restructurations de bâtiments universitaires et l'équipement dans la ville. Je pense que ça, par contre, contrairement au logement, je suis pas sûre que c'est beaucoup évolué.
Ouais.
Ni dans le mal, enfin voilà, l'équipement reste
une institution
dans la ville, reconnue par les maires, et où l'architecte a une sorte de... où on attend l'architecte pour que les espaces soient accueillants, soient beaux, pour que l'immeuble s'intègre ou pas dans la ville.
Parce que justement, on accepte de l'équipement quelque chose, une image qui est tout à fait différenciante par rapport au logement.
Exactement.
Parfois, il doit évidemment symboliser quelque chose.
Exactement.
Le pouvoir, l'argent, l'institution, l'enseignement.
Voilà. Et on dit d'ailleurs que, dans l'agence, on dit que l'équipement n'est pas orienté. Dans le sens où il peut avoir quatre façades vues, alors que le logement, lui, doit être orienté. C'est-à-dire, on entre à un moment donné et on a du privé à un autre moment. Donc voilà, c'est cette notion.
Parce que vous pensez que l'équipement aujourd'hui est obligatoirement tourné vers le collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir dans un équipement un lieu d'intimité.
Si, bien sûr. C'est ce que beaucoup d'équipements demandent maintenant. C'est comment, à un moment donné, les personnels...
Peuvent
se retrouver et donc être bien dans un bâtiment et en particulier dans un hôtel de police. Il faut que les fonctionnaires retrouvent des endroits de calme, par exemple.
Alors, toute cette accumulation, quelque part, d'expérience, fait que vous avez aussi, en parallèle, enseigné pendant quelques années. Que gardez-vous de ce rapport avec l'étudiant, de cette passation, on va dire, de savoir-faire,
hein ? Alors, c'est extrêmement étonnant, en fait, comme expérience, parce qu'on n'est pas du tout formé à être enseignant. Et donc, comment, à un moment donné, on se pose la question de qu'est-ce que je peux bien
leur dire.
Qu'est-ce que je peux bien leur dire. Et pour moi, c'était une expérience où j'avais besoin de tous les étudiants en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait, il fallait qu'il y ait une sorte de dynamique.
De résonance.
De résonance, de dynamique. En tout, c'était pas chaque projet. Je donnais une ordonnance comme un médecin. C'était vraiment, il fallait faire un... Je pense que c'est dans cette dynamique de groupe que chacun peut se retrouver et que la parole peut s'installer. Mais
est-ce
pas
que ça veut
parole...
dire que l'enseignant, il n'est pas le mandarin comme en médecine ? Est-ce qu'en architecture, quelque part, la parole elle est plus libre et que vous amenez vous-même à oser douter ?
Oui, bien sûr.
Douter de votre parole, douter de votre enseignement ?
C'est un autre sujet, mais il faudrait qu'effectivement il n'y ait plus de mandarin non plus en médecine. Ce serait peut-être un peu différent. Mais,
c'est un autre sujet,
mais que je ne maîtrise pas très bien d'ailleurs. Et oui, il faut... jamais on a la vérité en architecture. C'est pas vrai. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure.
Est-ce que vous avez appris de vos étudiants ? Et qu'avez-vous appris ?
Alors,
justement,
j'ai...
ils ont un œil très différent.
Alors, est-ce que c'était Vacchini qui disait vraiment qu'il y a des écoles pour les professeurs. Oui, j'ai appris. Alors, de mes étudiants, de la manière dont je savais pas non plus comment j'allais enseigner. Et ça m'a fait tout un retour sur l'enseignement que j'avais eu, mais aussi sur quelles étaient les idées principales que je pouvais défendre ou les réflexions que j'avais envie de mener là-dedans. Alors, voilà, c'était surtout un retour.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui qu'il y a un fossé absolument énorme entre l'enseignement que nous avons pu avoir, nous autres architectes de cette génération, et ce qui va se passer aujourd'hui? Il y a quelque part quand même un espèce d'énorme point d'interrogation à la fois sur les besoins, sur les savoir-faire, sur la modularité, sur les process industriels qui aujourd'hui, on va dire, sont un tout petit peu à la ramasse, à la traîne en tout cas. Je sais pas, très gentil, mais c'est comme ça. Comment fait-on pour justement faire cette passation?
Alors effectivement, comment construire dans un monde extrêmement perturbé climatiquement, géographiquement, politiquement. Et je trouve que la jeune génération a une sorte de force. Voilà, je n'ai pas encore analysé pourquoi elle a cette sorte de force, mais à prendre les problèmes et à essayer effectivement de les résoudre, d'avoir une manière de les résoudre que je trouve assez inventive, assez forte. Cette manière aussi de se mettre en groupe.
Oui, c'est ça. D'avoir un travail de groupe, y compris avec des matières autres.
Avec des expérimentations directes, avec un réseau qui peut être aller
au-delà de l'architecture.
Au-delà de l'architecture, de s'ouvrir à ça. Et je pense que c'est une vraie force. Je leur fais confiance, on va voir. En tout cas, c'est très intéressant. J'ai des jeunes archis que j'héberge dans mon agence. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement dynamique. Bon, voilà, on parle et il y a des choses qui se font ensemble aussi. Et voilà, je pense que ça va faire évoluer les écoles d'architecture qui sont un peu éloignées quand même.
Très éloignées.
Et surtout d'une sorte de culture constructive à laquelle moi je tiens absolument. Cette culture constructive qui fait des bâtiments solides, rationnels, capables. Et pas seulement des belles images.
Alors, on a fait le tour de pas mal de choses, et je trouve que l'enseignement et nos propos viennent d'une manière un peu subtile introduire la deuxième interview sur l'architecte conseil, sur ce grand terme extrêmement important qui fait quand même la passation entre les élus, les territoires et le monde de l'architecture. Merci Suzelle, et à très bientôt, chers auditeurs.
Merci Myriam.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.